Elles s'appellent Kitty, Elodie, Stéphanie, Léa, Manon ou encore Maëva, et elles ont décidé de parler à visage découvert, parler de leur relation toxique avec leurs compagnons ou leurs parents, parler des violences qu'elles ont subies, physiques ou psychologiques. Six femmes victimes de violences sexistes et sexuelles qui sont au cœur d'un court-métrage documentaire appelé Celles qui restent. Lucie Vivo est la réalisatrice venue du Puy-de-Dôme. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous sur RVA.
Merci à vous.
Alors, on va être transparent, bien sûr, avec nos auditeurs. Vous avez travaillé à RVA, là, au sein de la rédaction. Vous étiez en alternance chez nous, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça, il y a un an et demi.
Très bien. Et donc, après, vous avez pris vos propres ailes et donc vous avez réalisé ce documentaire, donc Celles qui restent, qui dure une quarantaine de minutes et qui est disponible sur votre chaîne YouTube. Alors, si vous pouvez peut-être vous présenter, d'abord, qui êtes-vous, Lucie Vivo?
Alors, donc, je m'appelle Lucie Vilvaud, j'ai 22 ans. Et ça fait 2-3 ans que je suis intéressée par le monde du journalisme. Donc, c'est pour ça que j'ai réalisé une alternance au sein de RVA.
D'accord.
Et par la suite, j'ai voulu réaliser un documentaire sur les violences faites aux femmes pour essayer de continuer à sensibiliser à ce sujet-là. Et aussi pour montrer aux médias et aux journalistes qu'on peut réussir à entreprendre sans forcément faire d'école de journalisme.
Bien sûr. Ce court-métrage, Celle qui reste, est donc disponible, je le disais, sur YouTube. Alors, comment vous est venue peut-être l'idée de réaliser ce court-métrage autour des violences sexistes et sexuelles? Ça a été, j'imagine, une longue réflexion peut-être autour de ça?
Alors, je pensais à l'idée depuis un petit moment. Elle s'est vraiment concrétisée en novembre 2023. À ce moment-là, je ne savais pas ce que j'allais faire en janvier. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me plaisait. Donc, je suis partie sur le fait de faire un documentaire. Et après, le sujet des violences faites aux femmes, c'était un sujet que je connaissais à travers des amis qui avaient pu vivre des violences. J'avais déjà fait un court-métrage sur les violences sexistes et sexuelles. Donc, c'était un sujet sur lequel j'étais plutôt à l'aise. Et voilà.
Ces personnes sont difficiles à trouver pour témoigner à visage découvert.
Alors, ça a été fait via surtout les réseaux sociaux. Et sinon, avec les connaissances de connaissances, donc il y avait quand même un vrai travail de mise en confiance sur les femmes qui étaient capables de témoigner. Et après, une fois que le travail de mise en confiance était fait, enfin, ça s'est passé et ça s'est très bien passé.
Oui, bien sûr, j'imagine que le premier travail, c'est de rassurer et enfin, prouver, entre guillemets, que ce documentaire ne sera pas contre elle, en tout cas.
C'est ça. Et après, ce qui était un peu compliqué, je pense aussi pour elle, c'est que quand j'ai commencé à vraiment réfléchir au projet, ça restait quand même quelque chose d'assez flou, parce que le premier tournage que j'ai fait, c'était à la manifestation à Paris, du coup en novembre 2023, et après j'ai commencé les interviews en janvier, donc c'était quand même assez flou, et elles ont quand même décidé de me faire confiance, donc c'est plutôt cool.
Bah, carrément, c'est vrai que ça a permis de faire avancer le projet, j'imagine. Ces victimes, elles sont auvergnates, elles sont françaises, globalement.
Oui, après, ça peut aller jusqu'en Belgique, des femmes qui
D'accord.
ont témoigné.
Ok, d'accord. Donc ça peut même aller, en tout cas, dans tous les aspects de la francophonie aussi, là-dessus. Je dirais combien de temps ont duré chaque tournage, peut-être? Est-ce que ça a été long ou est-ce que j'imagine qu'on prend le temps dans ces moments-là, justement?
Alors, il y avait. En fait, ça dépendait des femmes qui ont témoigné. Certaines racontaient leur histoire sans souci. Et pour d'autres, il fallait que je creuse un peu, justement, avec plusieurs questions. Et après, c'est sûr qu'on ne mettait pas de temps limite. Et enfin, je leur montrais les questions avant, parce que j'estimais que c'était un sujet qui était quand même assez compliqué pour pas qu'elles puissent voir les questions avant.
Oui, puis après, se donne le temps de la réflexion, savoir quoi dire aussi.
Et savoir surtout ce que j'allais aborder.
Bien sûr, oui, évidemment. Et j'imagine que voilà, de devoir encore répéter une nouvelle fois, en tout cas, cette histoire, ça doit peser aussi sur, j'imagine, sur leur esprit, enfin voilà, sur leur tête.
Bah, je pense qu'il y avait de ça aussi, et je pense que d'un côté, ça a pu pour certaines leur faire du bien de vraiment tout expliquer en détail. On était à chaque fois que deux pour les interviews, enfin vraiment, il n'y avait personne d'autre, et je pense que ça leur a fait aussi beaucoup de bien.
Ouais, ça a permis de faire une petite thérapie, je dirais, en tout cas, en huis clos.
Ouais.
Bon, c'est plutôt une bonne chose, en tout cas pour elle, bien sûr. Dans les différents témoignages, forcément, qui sont tous poignants, voilà, certains racontent leurs difficultés, soit avec de la famille, soit avec, bien sûr, des petits amis, voilà, ou encore même des compagnons, voire des maris. C'est vrai qu'il y a des profils très différents, en tout cas, dans le documentaire.
Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, j'ai décidé d'aborder plusieurs types de violences. Donc, il y a des violences conjugales, des violences infantiles et des violences sexuelles. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des histoires qui sont toutes très différentes. Après, c'est vrai que quand on parle des violences conjugales, c'est un schéma qui se met en place. Et pour les trois femmes qui parlent de violences conjugales, on sent que c'est quand même le même schéma,
Bien
quoi.
sûr, oui. Oui, ce schéma qui au début, bah, tout se passe bien, on est limite dans la bulle de l'amour, hein, forcément, du coup de foudre, et petit à petit, bah, le mécanisme se resserre autour de la victime pour devenir forcément une emprise de plus en plus grave, quoi. Donc oui, c'est assez interrogeant forcément sur ce que ça peut dire de notre société, aussi de nos relations de couple, j'imagine. Ça serait. Je veux dire, c'est quoi en fait le déclencheur, si vous avez peut-être une réponse à ça, le déclencheur de cette emprise, en tout cas de le basculement qui fait qu'on passe de cette belle période à la violence.
Après, je pense que dans tous les cas, quand il y a une forme d'emprise de la part d'un homme ou d'une femme, parce que ça existe
Bien
aussi pour
sûr.
les hommes, la personne en question, je pense, a des problèmes psychologiques et il y a beaucoup, beaucoup de manipulation.
Finalement, qu'est-ce qui était le plus difficile autour de ce projet? Ça a été après de le moment du tournage, ou est-ce que ça a été après de recouper, c'est-à-dire réécouter en cesse et en boucle les témoignages pour le monter?
Alors au début c'était les interviews parce que moi quand j'ai tourné la première interview enfin c'était très compliqué parce que vraiment j'ai retenu mes larmes pendant tout le moment où je lui posais les questions et après j'ai décidé de me mettre en retrait et de mettre de côté mes émotions pendant les interviews
Bien sûr.
pour le bien du documentaire et pour essayer de mettre les femmes en confiance. Et après, en soi, tout était assez compliqué parce que même le montage, c'est ça, quand on réécoute tout le temps, tout le temps, tout le temps ce qui s'est passé, les interviews, etc., ça a été pas facile. Et il fallait aussi que le montage soit rythmé, que les gens puissent apprécier aussi. Donc il y avait ce stress aussi qui était assez compliqué.
Oui, parce que malgré qu'elles ne se connaissent pas, j'imagine ces victimes entre elles, le montage en tout cas et le court-métrage se répond finalement. C'était ça aussi l'idée.
C'est ça, le but en fait, c'était que le documentaire dure 40 minutes à peu près. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à regarder des vidéos de plus de 10 minutes. Et moi, j'avais un peu cette crainte justement avec le documentaire qui faisait 40 minutes. Et donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment mettre un rythme pour que les gens ne lâchent pas. C'est un sujet qui est trop important pour pas qu'on puisse le regarder en entier.
Oui, surtout qu'après, vous avez aussi d'autres intervenantes, bien sûr, une avocate, notamment spécialisée sur la question des violences sexistes et sexuelles, et aussi Karine Plassard, donc responsable égalité des droits à la mairie de Clermont-Ferrand, voilà, qui permettent d'étayer aussi avec une source officielle, entre guillemets. C'était un petit peu ça aussi l'idée, peut-être d'avoir en tout cas une espèce d'institution aussi dans le documentaire.
Oui, alors après, pour être honnête, pour Karine, à la base, dans l'interview, elle parle aussi du 25 Gisèle Halimi. Et en fait, j'ai pas pu aborder tout l'aspect aide aux victimes parce que j'avais peur que ce soit beaucoup trop long.
Bien sûr.
Et au niveau de la transition, c'était assez compliqué. Donc j'ai quand même voulu garder son interview et garder justement tous les chiffres qu'elle aborde parce que c'est très important.
Oui, on rappelle le 25 Gisèle Halimi, bien sûr, c'est un espace, un endroit, en tout cas à Clermont-Ferrand, qui permet d'écouter la parole des femmes battues, en tout cas qui auraient besoin d'aide plus largement, en fait, hein, plus que via les violences sexistes et sexuelles. Donc, si vous avez besoin d'écoute, en tout cas d'être entendu, n'hésitez pas à aller à ce refuge. J'imagine qu'il est ouvert tous les jours, hein, je crois. Hein.
Oui.
Bien sûr, il est ouvert tous les jours, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Karine Plassard, en tout cas, elle est responsable égalité des droits à la mairie de Clermont-Ferrand. Pourtant, elle dit on est loin de l'égalité sur les violences sexistes et sexuelles. C'est presque un constat d'échec, quelque part, de voir que la personne qui s'occupe de l'égalité n'arrive pas à faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes.
Depuis plusieurs années, on en parle quand même davantage. Donc, je pense que c'est important de montrer qu'on a quand même réalisé un gros pas sur toutes ces problématiques. Après, le fait est que enfin, c'est la réalité, on n'arrive pas à avancer pleinement sur ces sujets-là. Et c'est vrai que moi, de mon avis vraiment personnel, je trouve qu'on stagne plus ou moins.
Ouais, là, on n'est plus vraiment dans la progression après le choc qu'il y a pu y avoir en 2021, notamment. 2021, on rappelle que ça a été l'une des années les plus noires pour les féminicides, puisqu'on en a démontré 151 selon le collectif Nous Toutes. Donc, c'est quand même assez effarant. Un autre chiffre aussi qui est revenu dans votre documentaire, 80% des plaintes sont classées sans suite. Là aussi, défaut de la justice quelque part.
80% des plaintes sont classées sans suite.
C'est le chiffre de l'avocate dans le documentaire, hein, je précise.
Je pense qu'il y a pas mal de problématiques au niveau de la justice. Déjà, le fait que ça prenne beaucoup de temps, que la justice manque peut-être d'argent, que les avocats ne sont pas assez formés.
Bien sûr.
Qu'après, si on parle aussi du sujet des commissariats, quand on va dans les commissariats, certains sont formés, certains gendarmes, mais d'autres ne le sont pas. Donc, en fait, il y a un vrai problème au niveau de la formation, je pense. Mmh. Et je pense qu'on ne prend pas assez ces sujets-là à cœur, en fait. Mmh. Ça prend trop de temps. C'est trop compliqué.
Oui, les procédures sont trop longues et du coup, faire attester, ne serait-ce que par exemple des hématomes ou enfin, en tout cas des preuves, hein, finalement, tacites, c'est assez difficile, j'imagine.
C'est ça. Mmh.
L'avocate, du coup, qui se prénomme Julie dans le documentaire, elle précise aussi, parce que c'est un cliché qui revient assez souvent, comme quoi les victimes de violences sexuelles portent plainte pour l'argent, en tout cas pour la raison financière. Elle relativise quand même que c'est plutôt pour l'aspect moral et pour se reconstruire, quand même, on peut le dire.
Oui, alors ça, je pense que c'est important de le souligner, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que demain, je prends l'exemple d'une femme qui porte plainte... Pour viol, par exemple, va le faire pour l'argent. Mais si on part déjà du principe que la justice est longue, ça veut dire que ça veut rien dire, en fait.
Oui, l'intérêt sera pas
voilà,
grand.
C'est ça. Et après, évidemment, c'est pour une reconstruction morale avant tout.
Oui, parce qu'elles n'auront pas, finalement, on va dire, les excuses de la personne qui les a agressées.
Bah, et puis, je pense qu'au-delà de ça, même si demain, elles ont les excuses de ces personnes-là, c'est vraiment le fait d'être, et Elodie le dit dans le documentaire, c'est d'être vraiment reconnue victime de la justice française. Ouais. C'est hyper important.
Oui, une catharsis derrière ça, très importante, bien sûr. Surtout, ouais, voilà, y a aussi des séquelles, j'imagine, traumatiques à ça. On le voit dans le documentaire, on le ressent, qu'il y a toujours cette boule au ventre, finalement, à re-raconter cette histoire. Donc, elle reste dans le temps aussi.
On sent qu'il y a, c'est vrai qu'il y a encore, il y a encore des séquelles dans tous les cas. Oui, on le voit dans le documentaire qu'elles sont très très émues par ce qu'elles racontent. Et elles se rappellent de tous les détails de ce qui s'est passé. C'est fou. Et après, je pense que pour certaines, il y a quand même de la haine. Elles se sont aussi détachées un petit peu de ça. Elles ont transformé ça en haine aussi.
Ah oui, donc ça s'est transformé de limite de regret, voire de j'imagine, de culpabilisation personnelle en haine, finalement, contre l'autre.
C'est ça, parce qu'elles ont compris que la faute n'était pas de leur côté, en fait.
Ouais, que c'était plutôt du côté de l'agresseur, donc forcément, ça change de camp. Vous avez aussi diffusé le film dans des salles, notamment à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que c'est, les retours un petit peu des personnes dans la salle? Est-ce qu'il se passe une certaine atmosphère, j'imagine, une certaine ambiance?
Ouais, alors on a diffusé le documentaire il y a quelques jours en salle. Mmh. Et après, donc avec Stéphanie, Elodie et Léa, on devait aller sur scène pour justement répondre aux questions des spectateurs.
Bien sûr.
Mais il y a eu un moment de silence où tout le monde était un petit peu choqué.
Ouais.
Et après, dans la salle, il y a eu beaucoup de pleurs. C'était un cercle très bienveillant, donc on a pu parler de certains sujets. Mais en tout cas, voilà, c'était très, très bienveillant.
Oui, voilà, j'imagine que l'émotion a dû gagner la salle, parce que je dirais pas que tout le monde connaît au moins une personne qui a été victime, mais en tout cas, la parole se libère de plus en plus et elle est de plus en plus écoutée aussi autour de nous. Ça, c'est évident. Donc, c'est bien aussi que des courts-métrages comme celui-ci se mettent en lumière et que les gens aillent les voir et les écouter.
Oui, et puis après, j'estime que si les personnes, en voyant le documentaire, sont émues, ont pleuré ou ont vraiment ressenti quelque chose, j'ai tout gagné, parce que s'il y a des émotions derrière, c'est que le message est passé.
Bien sûr. Vous sentez aussi dans les témoignages, parce qu'il y a aussi deux hommes qui apparaissent quand même dans le documentaire, notamment que vous avez interrogé lors des manifestations contre les violences sexuelles à Paris. Vous sentez justement un changement de mentalité aussi du côté peut-être des hommes, de la gente masculine?
Alors oui, ça je l'ai remarqué vraiment pour le premier tournage, quand je suis montée à Paris pour justement couvrir la manifestation c'était le 25 novembre. Et en fait, il y avait plein d'hommes, plein de femmes, il y avait des gens de tous les âges, les mentalités étaient tellement plus ouvertes.
Bien sûr.
Et j'ai pu justement parler avec pas mal d'hommes qui étaient complètement sensibles à ces sujets-là. Et ça faisait vraiment, vraiment, vraiment plaisir.
Oui, j'imagine, parce que Voilà, on va pas aller dans le not all men, hein, comme on dit. C'est-à-dire que, évidemment, tous les hommes ne sont pas des agresseurs, bien sûr, hein, il faut le rappeler. Mais il y a en effet des cas qui font que, y a des problèmes évidemment intrinsèques à la société, même c'est dit dans le reportage, je crois. Il y a une construction patriarcale évidemment qui fait qu'il y a une pression sociale et que forcément ça encourage en tout cas, on va dire, à peut-être pas plus de violence, mais en tout cas à banaliser cette violence.
Oui, après, c'est vrai que c'est. Là, on vit dans une société où c'est un peu compliqué parce que, justement, le sujet des violences faites aux femmes, on est tous censés, justement, enfin, se battre pour et essayer de défendre cette cause-là. Mais le problème, c'est que ça divise aussi, et c'est triste parce que, évidemment, tous les hommes ne sont pas violents. Les hommes peuvent subir aussi des violences, et c'est très important de le dire. Mais je trouve que c'est assez dommage que ça puisse diviser, parce que c'est pas le but du tout, au contraire.
Les hommes auraient plus d'avantages, en tout cas, à rejoindre ce mouvement-là, même parce que l'égalité entre les genres et les sexes, c'est une question sociétale et ça bénéficie à tout le monde.
Ouais, exactement, et tout le monde a y gagné.
Très, très bien. On peut le dire, il y a quand même une note d'espoir, quand même, à la fin de ce court-métrage. On peut dire que la société commence à changer, ça, on le sent en tout cas.
Ah oui, je pense que ça change dans tous les cas. Bah, depuis le mouvement MeToo, ça a vachement, vachement évolué. Et après, justement, des documentaires, des courts-métrages, des interviews, ça permet bah, de continuer à libérer la parole, de montrer que les médias s'intéressent toujours à ces questions-là et que ça continuera dans tous les cas tant qu'il y aura des violences. Donc, je pense qu'il y a quand même de l'espoir et qu'il faut continuer de relayer la parole à propos de ça.
Merci beaucoup, Lucie Vilvaud, d'avoir été avec
Merci.
nous. Je rappelle donc que votre court-métrage documentaire, Celle qui reste, est disponible sur votre chaîne YouTube. Et il sera également diffusé au tribunal judiciaire de Moulins ce vendredi. La séance est accessible, gratuite.
L'entrée est gratuite sur
D'accord.
réservation et c'est à 18 h.
Bon, et ben n'hésitez pas en tout cas à aller voir ce court-métrage vraiment touchant et poignant. Voilà. Très bonne journée à
Merci.
vous.